Chapitre 25. Le danger de te perdre. Avec le canon d'un flingue entre les dents, on ne prononce que les voyelles. Réplique du film Fight Club de Chuck Palahniuk. Clinique de l'hôtel, 1h du matin.
Vous êtes son mari ?
Demanda le docteur Philipson en refermant la porte de la chambre dans laquelle venait de s'endormir Billy.
Non, on ne peut pas dire les choses comme ça, répondis-je. Nous sommes ses cousins, prétendit Milo. Nous sommes sa seule famille.
Et ça vous arrive souvent de prendre des bains avec votre cousine ?
Ironisa le médecin en me regardant. 1h30 plus tôt, alors qu'il s'apprêtait à jouer un putt délicat, il avait enfilé à la hâte une blouse blanche sur son pantalon de golf pour se porter en urgence au chevet de Billy. Il avait pris immédiatement la situation au sérieux et s'était démené pour ranimer la jeune femme, l'hospitaliser et lui administrer les premiers soins. Sa question n'attendant pas de réponse, nous le suivîmes dans son bureau. Une pièce toute en longueur qui donnait sur une pelouse bien éclairée et lisse comme un green, au milieu de laquelle flottait un petit drapeau. En s'approchant de la fenêtre, on pouvait distinguer une balle de golf à 7 ou 8 mètres du trou.
« Je ne vais pas vous mentir, » commença-t-il en nous invitant à nous asseoir. « Je ne sais absolument pas de quoi souffre votre ami, ni quelle est la nature de sa crise. »
Il retira sa blouse et l'accrocha à un porte-manteau avant de s'installer en face de nous.
« Sa fièvre est élevée, son corps présente une rigidité anormale et elle a vomi tout ce qu'elle avait dans le ventre. Elle souffre également de maux de tête, respire difficilement et ne tient plus debout, »
récapitula-t-il. « Et donc ?» le relançai-je, pressé d'entendre le début d'un diagnostic. Philipson ouvrit le premier tiroir de son bureau et en sortit un cigare encore dans son étui.
« Elle présente des signes évidents d'anémie, » précisa-t-il. « Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est cette substance noirâtre qu'elle a régurgitée en quantité. »
« Ça ressemble à de l'encre, non ?»«
Possible. »
Pensif, il tira le cohiba de son tube en aluminium et en caressa la cape comme s'il attendait qu'une révélation surgisse au contact des feuilles de tabac.
J'ai demandé un bilan sanguin, l'analyse de la pâte noire et celle d'un de ses cheveux qui, d'après ce que vous me dites, ont blanchi subitement.
Ça arrive, non ? J'ai toujours entendu dire qu'un choc émotionnel pouvait faire blanchir les cheveux en une nuit. C'est arrivé à Marie-Antoinette la nuit précédant son exécution.
Bullshit,
balaya le médecin.
Seule une décoloration chimique peut faire perdre ses pigments à un cheveu aussi vite.
Vous avez vraiment les moyens de faire ce type de recherche ? S'inquiéta Milo. Le médecin coupa l'extrémité de son havane.
Comme vous avez pu le constater, nos installations sont à la pointe du progrès. Il y a 5 ans, le fils aîné du cheikh d'une monarchie pétrolière séjournait dans notre hôtel. Le jeune homme a eu un accident de jet ski. Un choc violent avec un hors-bord qui l'a plongé dans le coma pendant plusieurs jours. Son père a promis de verser une importante dotation à l'hôpital si nous parvenions à le tirer d'affaire. Plus par chance que par mes soins, il s'en est sorti sans séquelles et le cheikh a tenu sa parole, d'où notre confort de travail.
Alors que Mortimer Philipson se levait pour nous raccompagner, je demandai à passer la nuit auprès de Billy.
C'est stupide, trancha-t-il. Nous avons une infirmière de garde, ainsi que 2 internes en biologie qui vont travailler toute la nuit. Votre cousine est notre seule patiente. Nous ne la laisserons pas une seconde sans surveillance.
J'insiste, docteur. Philipson haussa les épaules et retourna dans son bureau en marmonnant.
Si ça vous amuse de dormir dans un fauteuil étroit et de vous casser le dos, libre à vous. Mais avec votre entorse et votre côte enfoncée, ne venez pas vous plaindre demain matin de ne plus pouvoir vous lever.
Milo m'abandonna devant la chambre de Billy. Je le sentais perturbé.
Je m'inquiète pour Carole. Je lui ai laissé 10 de messages sur son répondeur, mais ils sont tous restés sans réponse. Il faut que je la retrouve.
D'accord.
Bonne chance, vieux.
Bonne nuit, Tom.
Je le regardais s'éloigner dans le couloir, mais au bout de quelques mètres, il s'arrêta net et se retourna pour revenir vers moi.
« Tu sais, je voulais te dire que je suis désolé, » m'avoua-t-il en me regardant bien en face.
Il avait les yeux rouges et brillants, le visage défait mais l'air déterminé.
« J'ai tout fait foirer avec mes placements financiers hasardeux, » reprit-il. « Je me suis cru plus malin que les autres. J'ai trahi ta confiance et je t'ai ruiné. Pardon. »
Sa voix se brisa. Il cligna des yeux et une larme inattendue coula le long de sa joue. En le voyant pleurer pour la première fois de ma vie, je me sentis à la fois désarmé et gêné. « C'est trop con !» ajouta-t-il en se frottant les paupières. « Je croyais qu'on avait fait le plus difficile, mais je me trompais. Le plus difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on veut, mais de savoir le garder. Milo, je m'en fous de cet argent. Il n'a comblé aucun vide, ni résolu aucun problème, tu le sais bien. Tu vas voir, on s'en sortira comme on l'a toujours fait, » promit-il en essayant de reprendre le dessus. « Notre bonne étoile ne va pas nous lâcher maintenant. » Avant qu'il reparte sur les traces de Carole, il me donna une accolade fraternelle en m'assurant « Je vais nous tirer de là, je te le jure. Ça prendra peut-être quelque temps, mais j'y arriverai. » J'ouvris la porte sans faire de bruit et passai la tête dans l'entrebâillement. La chambre de Billy était plongée dans une pénombre bleutée. Je m'approchai de son lit en silence. Elle dormait d'un sommeil agité et fiévreux. Un drap épais lui recouvrait le corps, ne laissant émerger que son visage diaphane. La jeune femme vive et pétillante, la tornade blonde qui, ce matin encore, dévastait ma vie, avait vieilli de 10 ans en quelques heures. Ému, je restai un long moment à ses côtés avant d'oser poser ma main sur son front. « Tu es une drôle de fille, Billy Donnelly », murmurai-je en me penchant vers elle. Elle s'agita dans son lit et, sans ouvrir les yeux, marmonna « Je croyais que tu allais dire « une drôle d'emmerdeuse ».»« Une drôle d'emmerdeuse aussi », dis-je pour cacher mon émotion. Je lui caressai le visage et lui confiai. Tu m'as sorti du trou noir dans lequel j'avais glissé. Tu as fait reculer pas à pas le chagrin qui me dévorait. Avec ton rire et ta mauvaise foi, tu as vaincu le silence qui m'emmurait. Elle cherchait à dire quelque chose, mais, le souffle court et la respiration saccadée, elle dut y renoncer. Je ne vais pas t'abandonner, Billy. Je t'en donne ma parole, lui assurai-je en lui prenant la main. Mortimer Philipson gratta une allumette pour enflammer l'extrémité de son havane, puis, un putter à la main, sortit sur la pelouse et fit quelques pas sur le green. La balle de golf était à un peu plus de 7 mètres, sur un terrain en pente très légère. Mortimer tira une bouffée voluptueuse avant de s'accroupir pour mieux déchiffrer le coup à jouer. C'était un putt délicat, mais il en avait déjà rentré des centaines à cette distance. Il se releva, se mit en position et recouvra sa concentration. La chance n'est que la conjonction de la volonté et de circonstances favorables, prétendait Sénèque. Mortimer joua le coup comme si sa vie en dépendait. La balle roula sur le green, sembla hésiter sur sa trajectoire, avant de flirter avec le trou sans pour autant y tomber. Ce soir, les circonstances n'étaient pas favorables. Milo sortit en trombe sur le parvis et demanda au voiturier la Bugatti garée dans le parking souterrain de l'hôtel. Il prit la direction de la Paz, s'aidant du GPS pour retrouver l'endroit où il avait quitté Carole. Cet après-midi, sur la plage, il avait pris conscience des blessures à vif de la jeune femme. Des blessures dont il ne soupçonnait pas l'existence auparavant.
Décidément, on ignore souvent les tourments que traversent les personnes que l'on aime le plus, pensa-t-il tristement.
Il avait aussi été blessé par le portrait sans nuance qu'elle avait fait de lui. Comme les autres, elle l'avait toujours pris pour une racaille mal dégrossie. Un petit plouc des cités, rusto et phallocrate. Il faut dire qu'il n'avait jamais rien fait pour la détromper, car cette image le protégeait, masquant une sensibilité qu'il n'arrivait pas à assumer. Pour gagner l'amour de Carole, il aurait été prêt à tout. Mais elle ne l'avait pas mis suffisamment en confiance pour qu'il lui dévoile sa vraie personnalité. Il roula pendant une demi-heure, fendant la nuit claire. L'ombre des montagnes se détachait dans le ciel d'un bleu limpide, disparu depuis longtemps de nos villes polluées. Arrivé à destination, Milo s'engagea sur une piste forestière pour y garer la voiture, puis, après avoir glissé dans son sac une couverture et une bouteille d'eau, il prit le chemin rocailleux qui permettait de rejoindre la côte.
« Carole ! Carole ! »
hurla-t-il de toutes ses forces. Ses cris se perdirent, emportés par la brise tiède et capricieuse qui soufflait sur la mer en poussant des gémissements plaintifs. Il retrouva la crique où il s'était disputé plus tôt dans l'après-midi. Il faisait doux. Narcissique, la lune blonde et pleine cherchait son reflet à la surface de l'eau. Jamais Milo n'avait vu autant d'étoiles dans le ciel, mais il ne trouva aucune trace de Carole. Armé de sa torche, il continua son chemin en escaladant les rochers escarpés qui bordaient le rivage. Environ 500 mètres plus loin, il emprunta un sentier étroit qui descendait jusqu'à une petite baie.
« Carole !»
répéta-t-il en débouchant sur la plage. Cette fois, sa voix porta davantage. L'Ans était protégée du vent par une falaise granitique qui adoucissait le chant du ressac sur le sable.
« Carole !»
Tous les sens aux aguets, Milo parcourut l'étendue de la crique jusqu'à percevoir un mouvement à son extrémité. Il s'approcha de la paroi abrupte. Sur presque toute sa hauteur, la roche était traversée d'une longue faille qui s'ouvrait sur une grotte naturelle creusée dans la pierre. Carole était là, effondrée sur le sable, le dos courbé, les jambes repliées, dans un état de prostration complète. La tête baissée, elle grelottait et tenait toujours son pistolet dans son poing serré. Milo s'agenouilla auprès d'elle avec une légère appréhension qui céda rapidement la place à une vraie inquiétude sur la santé de son ami. Il l'emmitoufla dans la couverture qu'il avait dans son sac et la souleva pour la porter dans ses bras sur le trajet qui menait à la voiture.
« Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, » murmura-t-elle. « Je ne le pensais pas. »«
C'est oublié, » assura-t-il. « À présent, tout ira bien. »
Le vent se fit plus froid et souffla plus fort. Carole passa une main dans les cheveux de Milo et leva vers lui des yeux pleins de larmes.
« Jamais je ne te ferai de mal, » lui promit-il à l'oreille.
« Je sais, » lui assura-t-elle en s'accrochant à son cou.